Bonsoir à chacun. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Actes. Actes au chapitre 27. Comme le rappelait Jérémy cet après-midi, même si on a tendance à dire c'est les actes des apôtres, on a cette coutume, mais c'est surtout les actes de Dieu au travers des apôtres, ou les actes du Saint-Esprit. Je vous laisse le choix de choisir, même si le Saint-Esprit est Dieu. On ne va pas entrer dans ce débat-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu a utilisé des hommes à certains moments pour faire l'œuvre que lui, parce qu'il avait choisi d'employer des hommes pour faire cette œuvre. Il pouvait le faire par lui-même. Il pouvait le faire par lui-même, vous êtes d'accord? Mais il a choisi quand même d'employer des hommes. Quelle grâce il fait. Et dans Acte 27, on voit une affaire qui concerne l'apôtre Paul, qui faisait un voyage par bateau, mais pas un voyage touristique. De nos jours, c'est plutôt ça, quand on prend le bateau, c'est plus la croisière qu'on fait. Là, c'était pas du tout dans ce sens-là qu'il faisait le voyage. Lui, il était emprisonné, il devait être amené à Rome, et donc il avait un centenier qui était chargé de le surveiller pour l'amener à Rome. Et ce voyage, il a connu des péripéties. Actes chapitre 27, on va lire à partir du verset 7. Acte 27, et le verset 7. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire, plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Euraquilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Sirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'en se laissant emporter par le vent, comme nous étions violemment battus de la tempête le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Amen. » On lira la suite tout à l'heure. Hein, je ne voudrais pas vous enlever le bénéfice de la surprise, même si pour ceux qui connaissent la parole, ils connaissent la fin de l'histoire. En tout cas, il est question d'une tempête. Et dans la Bible, il y a eu toutes sortes d'histoires qui sont racontées, qui se sont réellement passées, concernant des tempêtes qui ont eu lieu. Toutes sortes de personnes ont connu des tempêtes. Il y en a un nombre défini, parce qu'il n'y a pas une infinité non plus d'histoires, mais il y en a quelques-unes. Et ce que j'ai remarqué en tout cas d'intéressant, c'est que certaines fois, les tempêtes, c'était voulu par le Seigneur. Par exemple, quand Jésus prend ses disciples et dit « Passons de l'autre bord ». Jésus savait pertinemment qu'il y allait avoir une tempête sur la mer de Tibériade. Il savait pertinemment. Et pourtant, il leur a dit « Passons de l'autre côté ». Et alors que la tempête a fait rage, tout d'un coup, Jésus dormait paisiblement. Mais là, c'était la volonté de Dieu. Jésus leur avait donné l'ordre de passer. Quand il s'agit de la tempête que Jonas a connue, Jonas fuyait la volonté de Dieu. C'était quelque chose de différent. Jonas fuyait ce que Dieu lui demandait de faire. Il désobéissait et Dieu a suscité une tempête pour le ramener sur le droit chemin. Et là, on se trouve dans un cas encore différent. Et je dirais, c'est le cas presque le plus normal de la tempête. C'est comme, vous savez, des fois j'ai regardé à la télévision cette émission où il y a la description d'une catastrophe aérienne qui a eu lieu, et les experts sont là, ils ont fait leur rapport, ils disent pourquoi la catastrophe a eu lieu, pourquoi l'avion s'est écrasé. Et quand on regarde ils analysent toutes les données, les boîtes noires, les conversations, toutes ces choses-là, et ils parviennent à cette conclusion que c'est une succession d'enchaînements. D'avertissements qui n'ont pas été écoutés, soit d'erreurs humaines, il y a toutes sortes de conséquences, mais l'enchaînement de toutes ces choses en fait qu'il y a une catastrophe. Et on est un peu dans ce cas-là. Cette histoire, c'est une succession d'avertissements, une succession de choses qui se sont passées, et que d'erreurs humaines aussi, je vais dire, une succession de mauvaises décisions qui ont fait que la tempête est arrivée, et qu'on a été au milieu de la tempête. Du moins, eux, ils y ont été, nous, on est là, à l'abri. Mais eux, à cause de leurs mauvaises décisions, ils ont connu une tempête. Vous me suivez jusque-là ? Bon. Alors j'ai dit, pour commencer, il y a une raison à la tempête. Il y a même plusieurs raisons. Et cette tempête-là qu'ils ont connue, elle est normale. Elle découle de ce qu'ils n'ont pas fait. Par exemple, ils n'ont pas écouté l'avertissement de Paul. Paul, qui avait une communion avec Dieu... Paul, qui était un peu la voix de Dieu à ce moment-là, Paul était celui qui rapportait les paroles de Dieu, et même, à la limite, sans parler de Dieu, il donnait des paroles de bon sens, des paroles toutes simples. Mais la première chose qu'il dit, c'est « Regardez à quelle époque on est ». On l'a lu, hein, c'était au verset 11. Alors, pardon, c'est au verset 9. « Un temps assez long s'est écoulé ». Et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. Il faut savoir que c'est l'époque, c'est à peu près à partir de fin septembre. Donc ceux qui naviguaient, les marins, savaient pertinemment que cette période de l'année, il ne fallait pas voyager. C'était se mettre en danger, en péril, que de voyager à ce moment-là. Et aujourd'hui, on est dans des temps particuliers. La Bible nous parle des temps de la fin et nous croyons que nous sommes dans les temps de la fin. Nous croyons que nous n'avons jamais été aussi près du retour de Jésus. Et la Bible nous invite à faire attention dans les temps dans lesquels on est. À considérer les temps dans lesquels on est. Et pas seulement les considérer comme cela, à se dire, on approche de la fin, mais surtout considérer notre état de cœur devant le Seigneur. Comment est-ce que je me suis préparé à la rencontre de Dieu? Est-ce que je me suis préparé au retour de Dieu ou pas? Est-ce que j'ai déjà réfléchi à mon salut ou pas? Est-ce que je sais ce que mon âme va devenir après la mort ou pas? Et dans des temps particuliers que nous vivons, nous devons avoir cette sagesse de réfléchir et de dire, mais Seigneur, je veux me préparer. Si j'ai pas d'assurance, je veux avoir cette assurance. Deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont refusé d'écouter, donc comme je le disais, les avertissements de Paul. Paul qui leur disait, n'y allez pas. Il vaut mieux rester là où on est. Au moins, on a la sécurité. On sait qu'on est sur la terre ferme déjà. Plutôt que de tenter d'aller ailleurs et de risquer quelque chose. Et ça nous parle de ces personnes qui refusent d'écouter ce que Dieu voudrait dire au travers de sa parole déjà, au travers de moments comme celui-ci. Des fois, les personnes persistent et s'entêtent à ne faire que ce qu'elles veulent, elles, et refusent d'écouter ce que Dieu voudrait leur dire. Et refusent même d'entendre, refusent même de se mettre à la portée de ce que Dieu voudrait leur dire. La question est simple ce soir. Est-ce que vous allez écouter la parole de Dieu ou est-ce que vous allez endurcir votre cœur? Est-ce que vous allez ouvrir votre cœur à l'appel du Seigneur, à sa voix, ou est-ce que vous allez fermer la porte de votre cœur? Et vous avez remarqué, le nom du port, il est quand même intéressant à savoir. Le nom du port dans lequel ils étaient, beau port. Ça, c'est beau, mais meilleur port, ça veut dire tout ça, excellent port. C'est le même mot. Et ces personnes sont dans Beauport, et la chose qui les interpelle, c'est qu'il y a le port de Phoenix qui est là-bas, et qui a l'air plus intéressant. Il a l'air mieux pour hiverner, il a l'air d'avoir toutes sortes de choses. Il y en a qui pensent, des historiens pensent que à proximité de Beauport, il y avait la ville de Lazé, comme on l'a lu, mais c'était un endroit rocailleux.
C'est un endroit rocailleux. Et Phénix, contrairement à ça, c'était l'endroit où il y avait des palmiers. Vous voyez tout de suite l'image. Les gens qui pensent qu'en allant ailleurs, les gens qui rêvent d'ailleurs, les gens qui rêvent qu'ailleurs c'est toujours mieux. Et il y a des personnes qui ont toutes sortes de choses. Ils ont peut-être déjà une famille, mais ils pensent qu'aller avec une autre femme, ça va être mieux. Ils ont peut-être de l'argent, mais ils pensent qu'avoir plus d'argent, ça va être mieux. Et il y a des personnes comme ça qui passent leur vie à rêver d'ailleurs et qui ne se satisfont pas de ce qu'ils ont et de toutes les grâces que Dieu leur fait. Parce que même quand on n'est pas croyant, Dieu nous fait des grâces, vous êtes d'accord? Rien que le fait d'être vivant, c'est une grâce. C'est Dieu qui met son souffle de vie en nous. Mais après, il nous donne la liberté de faire de notre vie ce que nous voulons. Et il nous invite par contre, choisis la vie, choisis le bon chemin. Mets ta vie dans mes mains afin que je te conduise. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui perdent leur temps à rêver d'ailleurs, à rêver aller plus loin. Est-ce que vous croyez ce soir que c'est mieux ailleurs? Ou est-ce que vous voulez rester peut-être à l'endroit où vous êtes et réfléchir à ce que Dieu, lui, a prévu pour vous? Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Il y en a qui, comme on l'a lu au verset 13, se croient maîtres de leur dessein. Ils se croient maîtres, ils croient que leur vie leur appartient et qu'ils, sans en sont maîtres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur vie. Ça ne changera rien. Ils peuvent aller à tel endroit, faire des projets à plus ou moins long terme. Et c'est pas, il faut pas ne pas faire de projets. Mais il faut pas penser que nos projets vont, qu'on est maître de nos projets, maître de nos desseins. La Bible nous dit que oui, on peut régner sur la vie. Mais si on accepte la grâce de Dieu, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, et ceux qui reçoivent Jésus-Christ, ils régneront par la vie. Ils régneront dans la vie par Jésus-Christ, pardon. Vous voyez, Dieu nous appelle à régner dans la vie, mais pas par nous-mêmes. Il nous appelle pas à être maître de nos desseins, mais il nous appelle à vraiment régner dans la vie, seulement en croyant en Jésus-Christ. Se croire maître de son dessein. Et vous avez remarqué qu'au moment où ils ont eu cette pensée-là, il y avait tout qui était en leur faveur. Un léger vent du sud soufflait et il les emmenait à l'endroit où ils voulaient. Un léger vent du sud. Et il y en a qui pensent que quand tout va bien, mais des fois, mais qu'ils n'ont rien réglé avec Dieu, ben c'est pas grave, c'est bon signe. Tant que tout va bien, ben je profite de la vie. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, alors qu'ils sont maîtres de leur dessein, il y a la tempête qui se déclare. Et avant de rentrer dans les conséquences de la tempête, c'est peut-être, il faudrait s'interroger sur les raisons de la tempête dans les vies, toutes ces tempêtes qu'on peut traverser, que ça soit financière, que ça soit sentimentale, que ça soit familiale, toutes ces choses auxquelles on peut être confronté et qui peuvent être comme des tempêtes, des tourbillons d'épreuves où vous avez remarqué que des fois les épreuves elles s'enchaînent, elles voyagent en meute comme le disaient certains. Hein? On a l'impression que il y en a pas une, il y en a tout un groupe qui arrive d'un coup. Et c'est véritablement des tempêtes. Et vous savez que le péché, il a cette faculté de nous aveugler. Dieu voudrait nous avertir, Dieu voudrait nous faire entendre sa voix, mais le péché, lui, il fait tout le contraire, il nous aveugle. Le péché, il nous séduit, alors que Dieu voudrait nous faire connaître la vraie satisfaction. Le péché nous trompe, alors que nous pouvons régner sur la vie, justement, en Dieu. Et vous savez qu'on pense être maître de son dessein, mais la Bible nous dit... Il n'y en a qu'un qui doit être appelé maître. C'est le Seigneur, c'est Dieu. Le résultat, en tout cas, il est là. Quelque temps après, il est dit bientôt, mais c'est vraiment très peu de temps après, la tempête arrive. Les vents soufflent, un vent incroyable, un vent impétueux. C'est même un ouragan qui se lève et qui commence à faire perdre courage à toutes ces personnes qui sont là, tous ces passagers. Et vous avez remarqué avec moi qu'il y avait... les bons conseillers qui étaient là, le pilote et le patron du navire. Bon, le pilote, on peut se dire, bon, il connaît son domaine. Mais le patron, est-ce que c'est le mieux à même de dire, il faut naviguer maintenant? Et ça, des fois dans nos vies, il y a des hommes qui nous donnent des conseils, quelle que soit leur profession, ils nous donnent des conseils dans leur domaine. Mais combien c'est important de savoir, surtout dans le domaine spirituel, quel est le conseil de Dieu pour nos vies. En tout cas, en ne tenant pas compte des avertissements de Dieu, ils connaissent la tempête. Un vent impétueux se déchaîne et nous pouvons rencontrer des circonstances et la force des circonstances peut faire en sorte que nos vies sont comme à la dérive, comme on est entraîné, on a beau faire tout ce qu'on peut, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à lever la tête, on est sous la lourdeur de l'épreuve, l'épreuve là, elle s'impose à nous, on n'a pas le choix et on est comme ces hommes étaient à un moment donné, ils ont perdu totalement l'emprise sur les événements et ils ne pouvaient rien faire. Toutes les choses qu'il faisait, ça ne servait à rien. Qui lève la voile ou qui baisse la voile, ça faisait la même chose. Les vagues étaient là, qui gouverne ou qui ne gouverne pas, c'était pareil. Les circonstances étaient là. Le navire, il était entraîné. Au verset 15, on voit qu'il est dit que c'était impossible de lutter. Ils allaient à la dérive, ils étaient emportés. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ceux qui se croyaient maîtres de leur destin, ils avaient de la peine à être maîtres de la chaloupe. La chaloupe, c'était le petit bateau de secours qui était sur le côté. Et ceux qui se disaient maîtres de leur destin, ils avaient de la peine simplement à être maîtres d'une petite barque qui était là à côté d'eux. Et des fois, on a l'impression, nous, d'être maîtres de notre destin, alors que les petites choses qui sont là, on voit tout à fait qu'elles nous échappent. Quand on est au cœur de la tempête, on voit, et on essaie de faire notre maximum, de faire tout ce qu'on peut de manière humaine, mais ça ne sert à rien. La Bible nous dit que si on essaye par nos forces de nous sauver, ça ne sert à rien. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Aucun autre homme ne peut nous sauver si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Et ça me fait penser à cette histoire. Ce petit enfant qui s'amusait avec son ami. Vous savez, quand on est petit, on aime bien voir les œufs des oiseaux. Et il avait repéré sur une falaise des œufs des oiseaux. Il voulait les piocher. Il voulait les récupérer pour, je ne sais pas pourquoi en faire. Mais en tout cas, ça l'intéressait. Et à un moment donné, il en voit un qui était un peu au bord du précipice. Et il s'approche et il essaie de faire attention. Mais ce qui devait arriver arriva. Il glisse. Il glisse et puis petit à petit il essaye de s'agripper, ses doigts, il commence à creuser la terre, il essaie de s'agripper à une meute d'herbe, mais ça tombe, il essaie de s'attraper les rochers, ça tombe aussi. Et puis à un moment donné, alors qu'il est au bord de tomber, au bord de la falaise, il arrive quand même à s'accrocher au rocher. Mais il sait que sa situation ne va pas durer longtemps comme ça. Il sait qu'il va vite manquer de force. Et souvent on est comme ce petit garçon, on essaie de se raccrocher à ce qu'on peut, on essaie de faire avec nos forces à nous. Mais on a besoin d'un secours extérieur. Ce petit garçon, heureusement, il y a son ami qui est venu, et au péril de sa vie, il a essayé de bien d'abord s'accrocher, et puis après de venir le sauver. Et nous, on a cette grâce de connaître le Seigneur, de connaître Dieu, qui est de son ciel de gloire, il tend la main vers les hommes pour les sauver, pour les secourir. Il a donné Jésus-Christ sur la croix pour que nous puissions croire en son nom, pour que nous puissions être sauvés, pardonnés de nos péchés, que nous puissions connaître la vie que Dieu veut que nous vivions. Et vous avez remarqué aussi qu'au moment de la tempête, ces personnes, ils ont baissé les voiles. Ils ont baissé les voiles. Ça nous signifie qu'ils n'ont plus d'élan. Ils ont laissé tomber l'histoire. Ils ont baissé la voile. Parce que, toute façon, tout l'effort qu'ils peuvent faire, ça va mener à rien du tout. Et on remarque que les conseils financiers du patron et les conseils techniques du conducteur du bateau, ça ne servait à rien puisqu'ils ont perdu la cargaison. Donc le financier, c'est ça à l'eau. Et ils ont perdu les agrès. Vous savez, ils ont dû jeter les agrès. Alors les agrès, si vous êtes comme moi, vous avez été obligé de regarder dans un dictionnaire pour savoir ce que c'était. Et les agrès, en fait, c'est toutes les choses secondaires sur le bateau. Tout ce qui est poulies, cordes, les voiles, mais qui sont pas importantes. C'est tout ça. Même certaines ancres, certains cordages, tout ce qui n'est pas vital, ils ont dû tout jeter à l'eau à ce moment-là. Mais ce qui est important quand même pour conduire, ils ont tout mis à l'eau, parce que de toute façon, ça ne servait plus. Et malgré les conseils que leur avaient donné ces hommes-là, on se rend compte qu'ils n'étaient pas avisés, ils n'étaient pas inspirés de Dieu, puisqu'ils ont dû se séparer de tout. Alors forcément, à l'arrivée, le patron, il n'allait pas faire beaucoup de bénéfices. Mais par la grâce de Dieu, ils ont sauvé leur vie, comme on va le voir tout à l'heure. Est-ce qu'on n'a jamais connu des moments d'obscurité comme ils ont connu ? Le soleil et les étoiles, au verset 20, ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes toute espérance de nous sauver. Et combien de personnes sont dans cette situation spirituelle ? Ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas levés le matin en disant « Mais pour moi, le soleil ne brille plus. Le soleil ne brille pas aujourd'hui. » Combien de personnes sont dans ce cas-là ? Combien pensent que, je ne parle pas du soleil extérieur, hein, mais combien pensent que dans leur vie, il n'y a plus cette lumière qui est là, ils ont l'impression d'être dans une obscurité. En tout cas, une chose est sûre, Dieu permet les tempêtes dans la vie, et cette tempête-là a été permise, et pour que ces hommes se rendent compte que sans lui, ils n'étaient rien. Et nous, les tempêtes que nous pouvons traverser, des fois, il y en a qui sont voulues par Dieu, mais des fois, il y en a auxquelles Dieu utilise pour être changé en bien, pour que nous nous rendions compte surtout que nous sommes perdus, perdus sans lui. Est-ce que vous savez que sans Jésus, vous êtes perdus? C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Est-ce que vous savez que sans croire en Jésus, ben, vous n'avez pas d'espoir de salut? Ces hommes, ils avaient perdu tout espoir d'être sauvés. Mais nous savons que notre espoir pour le salut, c'est Jésus-Christ. Et il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. Au moment de cette tempête, il y a eu un homme qui est sorti du lot. Il y a eu un homme qui a bien réagi dans la tempête. Oui, il y a eu une tempête incroyable. Il y a eu un ouragan qui est passé. Mais dans cette tempête, sur ce navire, il y a eu l'apôtre Paul qui était là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose de particulier. On peut le relire au verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, il n'y aura pas de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Mais nous devons nous échouer sur une île. Paul était là. Vous avez remarqué ce qu'il est dit de lui? Il se tenait au milieu d'eux. Il était dressé au milieu d'eux. Il était quelque part comme ancré. Alors que le bateau était en train de tanguer, malgré les vagues, malgré la pluie qui était là, qui tombait, le vent, Paul, il était là, il se tenait au milieu d'eux. Il se tenait ferme. Et j'ai remarqué qu'il se tenait non seulement ferme sur ses pieds, mais ce n'est pas ça l'important. C'est surtout son attitude intérieure. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a, comme ce verset nous le dit, il avait cette espérance comme une ancre de l'âme qui traverse jusque dans la présence de Dieu. Il était comme attaché dans le ciel, il était attaché à des choses éternelles. Alors que les hommes essayaient de s'attacher à des choses matérielles, lui il était attaché dans le ciel. Il avait cette assurance. Paul, il se tenait au milieu d'eux, mais il se tenait dans la foi. Verset 25, il nous dit que ce que Dieu dit, il accomplit. Est-ce que nous croyons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais un homme qui accomplit ce qu'il nous dit? Un homme, quand il nous donne une promesse, quand il nous donne cette promesse qu'en croyant en Jésus, on est sauvé, on a la vie éternelle, eh bien, il accomplit. Il suffit de croire, de mettre sa foi en Dieu, et il le fait. Est-ce qu'on a cette certitude, comme l'apôtre Paul, il avait? Il avait cette certitude d'appartenir à Dieu. Est-ce que nous avons cette assurance que nous sommes au Seigneur? Est-ce que nous avons le Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous dit, oui, tu es mon enfant, oui, tu es le Fils de Dieu, oui, parce que tu as cru à la croix, tu es le Fils de Dieu. Est-ce que nous sommes repentis, convertis dans notre péché? Regardez ce que fait l'apôtre Paul. Alors que les marins qui étaient là, ils voulaient s'enfuir au bord de la chaloupe qu'ils avaient réussi à ramener. Certains marins très courageux voulaient s'enfuir et laisser les autres. Paul, il a dit non. Si vous faites ça, c'est tout le monde qui ne sera pas sauvé. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont détaché la chaloupe. Des fois, on a besoin de laisser les moyens humains et de regarder totalement, de dépendre totalement. Dans des moments comme ça, dans les tempêtes, de dépendre totalement de Dieu, de confier nos vies à Dieu. Et alors que ça faisait 14 jours qu'ils ne mangeaient pas ces personnes parce qu'ils connaissaient cette tempête, il les a exhortés à manger, à prendre des forces. Est-ce que nous sommes de ceux qui, venant dans la présence de Dieu aussi pour lire la parole, que nous avons compris que cette parole, c'était la nourriture de notre âme, cette parole qui pouvait faire que nous allons grandir, que nous allons faire des progrès avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes de ces personnes-là? L'apôtre Paul, en tout cas, il se tenait ferme dans la foi et il se nourrissait de la parole. Et alors qu'il était là, dans le bateau, comme les autres, on aurait pu dire, mais oui, mais pourquoi lui, il était comme ça et pas les autres? Regardez ce qu'il faisait aussi. Paul, il se tenait dans la prière, dans la communion avec Dieu. Alors qu'il était en péril comme les autres, il avait quand même reçu une visite d'un ange de Dieu. Il avait reçu une parole de Dieu. Il avait rencontré le Seigneur dans un moment de communion et il lui avait donné des indications. Il avait connu la volonté de Dieu. Il avait prié pour le salut des personnes qui étaient avec lui. Vous savez que Jésus intercède, mais il intercède en faveur de ceux qui s'approchent de lui. De ceux qui s'approchent de Dieu par lui. De ceux qui s'approchent de Dieu en croyant que c'est lui qui leur donne l'accès. Est-ce que vous le croyez? Paul priait aussi pour connaître la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, la volonté de Dieu, c'était que tous soient sauvés. parce que Paul a intercédé en leur faveur. Mais la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est que nous soyons sauvés. C'est que tous les hommes soient sauvés d'ailleurs. Mais tous les hommes ne seront pas sauvés parce que certains choisiront de croire et d'autres ne le choisiront pas. En tout cas, moi je voudrais m'adresser à ceux qui veulent croire en Jésus. Que vous puissiez avoir cette attitude, quelles que soient les tempêtes que vous pouvez confronter, être confronté, avoir cette attitude comme Paul, de recourir à la prière, de vous tenir dans la foi et de croire que Dieu est tout-puissant pour accomplir ce qu'il nous promet. Jésus est le moyen d'être sauvé. Jésus est celui en qui nous devons croire. Vous connaissez ce verset, Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et oui, il y a des tempêtes dans la vie. Et oui, on se rend compte que le péché, vivre dans le péché, c'est quelque chose d'horrible sur cette terre. Il y a des conséquences qui sont là. Des fois, on en parlait tout à l'heure, mais des fois, il y a certaines choses qu'on fait qui durent pas longtemps, mais qui ont des conséquences de toute une vie. Il y a certains péchés qu'on fait et qui sont là, qui vont nous poursuivre jusqu'à la fin de nos jours. Mais combien c'est bien plus grave de réfléchir à ce qui va se passer après. Ce qui va se passer après. Vous savez que la Bible compare la présence de Dieu envers les méchants à une tempête. Jérémie 23, verset 19 nous dit « Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. » Et je pense, et j'ai même cette assurance que dans le ciel, pour ceux qui n'auront pas réglé le souci du péché, ce fardeau du péché, cette horreur du péché, ils vont se confronter à la colère de Dieu. On l'a lu, hein ? La colère de Dieu demeure sur lui, demeure sur celui qui ne croit pas à Jésus. Et il va vivre comme une tempête incroyable. Et je pense que toutes les tempêtes de cette terre, tout ce qu'on peut vivre, toutes les crises qu'on peut avoir, toutes ces choses-là, toutes les épreuves, ne se comparent pas à la colère de Dieu envers celui qui n'aura refusé Jésus. Mais Dieu nous laisse toujours le moyen d'être sauvés. Dieu nous dit, crois au Fils, et tu auras la vie éternelle. Il nous laisse simplement le choix. Dieu veut être aussi... S'il veut, s'il est à travers de sa colère, il va y avoir la tempête, il veut quand même être un abri envers la tempête. Ésaïe, chapitre 25, verset 4, Dieu veut être un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri dans la tempête, un ombrage contre la chaleur. Est-ce que nous voulons de ce Dieu-là ? Est-ce que nous voulons rentrer dans le ciel de gloire et au moment du jugement du Seigneur, ne pas être considéré comme un méchant et que la colère de Dieu s'abatte sur nous et que nous soyons séparés de sa présence, non pas que Dieu va nous frapper ou quoi que ce soit, mais on va être loin de sa présence parce qu'on n'aura jamais voulu de lui. Est-ce que nous voulons plutôt être de ces personnes qui réglons l'affaire du péché, qui acceptons d'être pardonné parce qu'on se sera repenti, qui acceptons d'être libérés du péché, qui acceptons de ne pas être maître de nos desseins, mais de remettre notre dessein entre les mains de Dieu et de dire « Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie, je veux t'abandonner ma vie, je veux que tu m'utilises pour faire ce que tu veux, Seigneur. Je sais que tu as des plans parfaits pour moi, des projets de paix et non de malheur. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Je sais que dans tes mains je serai sauvé. Je sais que tu es cette personne qui peut me secourir. Peut-être je suis au bord du précipice en ce moment. Seigneur, je sais que toi seul tu peux me secourir. Les hommes peuvent me donner tous les conseils, et même les plus intelligents conseils du monde, ça n'a rien à voir avec les conseils de ta parole. La folie de Dieu est bien plus sage que l'intelligence des hommes, que la sagesse des hommes. Alors je veux me confier en toi. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un ce soir ? En tout cas, on va prendre un instant pour prier, que le Seigneur puisse nous parler pendant ces moments. Éternel, nous voulons te bénir et te louer parce que malgré les tempêtes, nous voyons que dans ta parole, il y a des tempêtes, Seigneur. Nous voyons que dans la vie même, il y a des tempêtes. Mais malgré cette tempête, Seigneur, ou ces tempêtes que nous pouvons traverser, nous savons que nous avons un appui solide en toi. Nous savons que nous pouvons nous appuyer sur des choses éternelles, des choses qui ne bougent pas. Seigneur, ta parole est éternelle. Seigneur, tes promesses sont éternelles. Seigneur, l'œuvre de la croix est éternelle. Et nous croyons que par la foi, dans ton sacrifice, nous pouvons être sauvés. Nous croyons que par la foi, dans ton sacrifice, nous pouvons être guéris de toutes sortes de choses, Seigneur, que ce soit des maladies physiques ou des maladies psychologiques. Seigneur, nous croyons en ta parole. Nous croyons que dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous croyons que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi et que si nous croyons que tu as pris notre place eh bien, tu nous donnes la vie éternelle. Alors nous voulons te bénir. Tu vois les amis qui sont là ce soir, tu connais leur vie, tu connais leur cœur, tu connais leurs circonstances. Tu sais si, ceux qui traversent peut-être des situations particulières qui pourraient s'apparenter à des tempêtes, Seigneur. Tu connais ceux peut-être pour qui les problèmes sont moins grands, mais pour qui l'appel résonne quand même, Seigneur. Tu connais toutes ces personnes. Ce soir, nous entendons ta parole. Ce soir, nous écoutons le message que tu veux nous dire. Et nous voulons y répondre, simplement. Seigneur, merci, parce que tu ne nous laisses pas orphelins dans ce monde. Mais tu nous envoies ta parole pour nous guérir. Tu nous envoies ta parole pour nous secourir, Seigneur. Et nous voulons nous y accrocher. Nous voulons faire comme l'apôtre Paul, qui s'est tenu dans ta présence, qui s'est tenu dans la foi en toi, Jésus, et qui a eu cette assurance, malgré les circonstances qu'il avait autour de lui. Il a regardé à toi, et il était confiant. Nous voulons avoir cette même attitude ce soir. Je te prie de bénir chacune des personnes ce soir qui est dans ce lieu et qui a besoin de ton secours, Seigneur. Toi qui connais les cœurs, je te demande de en ce moment de les visiter et de les bénir. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Je te loue et je t'adore, Éternel. Amen.